les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférences à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée. Nous sommes aujourd'hui à la Maison Fumetier à Nantes, où nous avons le plaisir de rencontrer Juliette Mancini, autrice illustratrice en résidence cette année. Au micro de PICT, elle nous présentera sa deuxième bande dessinée, Éveil, publiée aux éditions Atrabile en 2021. Dans cet ouvrage, Juliette Mancini met en scène son cheminement personnel et interroge la féminité à la lumière de son histoire familiale. Elle travaille sur les représentations des corps et explore l'intime en jouant avec la transparence et la couleur.
Oui, alors le projet, il est né à un moment où je faisais des ateliers de bande dessinée en école primaire auprès d'élèves de CM2. Et je leur faisais faire des exercices de bande dessinée autour de thèmes politiques, ou en tout cas on partait de l'actualité pour écrire des histoires. Et j'avais été assez surprise de leur réaction en fait aux actualités politiques, de ce qu'ils pouvaient comprendre, de choses qui me paraissaient très complexes, et puis parfois aussi avoir des interprétations hyper fantaisistes de choses qui à ce moment-là me paraissaient un peu plus faciles à comprendre. Et en fait, ce temps-là de création avec les enfants, ça m'a fait me remémorer des moments de mon enfance justement liés à cette actualité. Et donc j'ai commencé à lister tous les événements des années 90-2000 qui me revenaient en tête. Donc c'est des pages qui apparaissent dans le livre sous forme de liste un petit peu, avec la guerre du Kosovo par exemple, la vache folle, Monica Lewinsky, le 11 septembre, etc. Et à partir de ça, j'ai commencé à écrire sur mon rapport à la politique enfant, dans la famille, qu'est-ce qui était raconté, partagé. Et donc, je ne suis pas du tout partie de l'intime à la base. C'est venu petit à petit. Et je pense que je ne me serais peut-être pas permise de me lancer tout de suite dans quelque chose sur l'intime. Mais voilà, en partant de la société, ben, petit à petit, je suis allée gratter des choses voilà, plus personnelles, des choses qui faisaient parfois un peu mal. Voilà. Mais c'est venu vraiment petit à petit. Et l'aspect, le rapport au corps féminin, tout l'aspect finalement féministe qui apparaît dans le livre et qui est une partie qui ressort beaucoup, enfin, en tout cas que les lecteurs retiennent peut-être davantage que le reste, c'est ce qui est venu vraiment à la fin, quoi. Enfin, ça a été le dernier pilier, quoi, du livre.
Et comment vous avez fait pour incorporer ces différents matériaux, alors, par différentes étapes, d'après ce que je comprends, mais aussi graphiquement, par le choix des couleurs, par le choix de... Est-ce qu'il y a eu des partis pris dès le départ ou...
Oui, alors j'ai commencé à parler plutôt de politique. Ça m'a amené à parler de ma famille. Et puis parler de ma famille, ça m'a amené à parler de moi et parler du rapport au féminin. Donc ça s'est construit au fur et à mesure comme ça, mais par contre j'ai défini des gammes de couleurs pour pouvoir signifier ces trois grandes thématiques. Du coup, ben, les pages liées à la politique sont dessinées en bleu et jaune. Celles qui sont liées à ma famille, c'est en orange et vert. Et puis ce qui est lié au féminin, c'est en orange et bleu violacé, quoi.
Et ça nous a vraiment marqué parce qu'au moment où on est vraiment imprégné de cette couleur, de ces couleurs à la lecture, et vous travaillez l'intensité de manière très différenciée. Et surtout, j'ai trouvé ça très prenant parce que vous représentez la forêt dans laquelle vous vous projetez enfant avec le même bleu avec lequel vous représentez l'espace public la nuit. Alors, est-ce qu'on est sur un terrain d'aventure qu'il faut absolument s'approprier? Est-ce qu'on est sur une idée d'espace dans lequel se projeter? Quel est le rapport que vous avez fait entre ces deux espaces?
Je sais pas, j'avais pas réfléchi à ça particulièrement. L'espace de la forêt, enfin de la forêt du jardin en fait, qui se transforme un peu en forêt, mais qui se présente de façon assez sauvage, assez incontrôlée, quoi. Donc c'est là où on peut voir plutôt une forêt ou un jardin selon comment on regarde, mais à ce moment-là, je parlais de l'enfance et puis de l'aspect colérique de cet enfant et de son désir de liberté, d'aventure. Et du coup, le décor devenait un élément sauvage aussi, comme un miroir en fait du personnage. Et j'ai vraiment essayé d'adapter le dessin tout au long du livre, suivant ce que je dessinais en fait, essayer d'adapter le trait, d'adapter le geste, d'avoir un trait plus ou moins dynamique, plus ou moins nerveux, pouvoir jouer aussi entre des superpositions de traits, mais aussi d'aplats et voilà. Et du coup, pour revenir à la ville, en fait, dans ces différentes images, à chaque fois, le personnage est en orange. Et puis, ça ressort, quoi. C'est l'élément qui ressort. Et puis, le reste s'organise autour d'elle. Voilà. Après, dans l'ambiance... l'espace de la ville, il paraît quand même un peu effrayant. Enfin, il y a quelque chose à la fois de très vide, d'entremêlé, des rues qui sont pas très définies, des sortes d'espaces, des volumes en fait juxtaposés, et puis des ombres. Et puis, est-ce que ces ombres sont des agresseurs ou pas? Ben, on sait pas. le texte laisse entendre que potentiellement oui, mais en même temps peut-être que c'est juste des ombres qui font peur, quoi, qui sont pas réelles, qui appartiennent pas à des personnes. Voilà. Bien, je sais pas si je réponds à la question.
Puis en plus on voit bien à quel point le jardin est bien plus lumineux en fait que votre façon de représenter l'espace nocturne. C'est logique, mais en tout cas l'ambiance qui s'en dégage, on l'aperçoit très bien. C'était plus ça nous avait un petit peu. On avait été intéressés par ce parallèle.
Oui, puis c'était une couleur bleue légèrement plus atténuée. Vous parlez d'un trait marqué que vous avez vraiment cherché dans certaines planches. Et ici, il y avait quelque chose qui était atténué, mais vous avez travaillé sur les cases, en fait, et sur la taille, peut-être, pour le paysage urbain par rapport au paysage du jardin.
Ouais.
Donc, on avait un parallélisme qui n'était peut-être pas nécessairement... tout ce travail, travail sur le trait, en fait, c'est ce qui nous intéressait aussi, sur l'intensité du trait.
Oui. En fait, les pages avec l'enfant dans le jardin, il n'y a plus de cases, quoi. Et c'est vraiment, d'un coup, on sort des cases et puis l'espace... prend toute la page. Dans la ville, au contraire, il y a de plus en plus de cases dans la page. Et du coup, je voulais donner une impression d'enfermement, quoi, que petit à petit, le personnage se retrouve à évoluer dans un espace de plus en plus réduit. La taille du personnage change aussi, mais voilà, il y a cette idée de labyrinthe, quoi, à un moment... de se retrouver coincé et puis de devoir se débrouiller avec les interstices qui restent.
Oui, l'impression d'un monde rétréci, effectivement. Et comment vous avez envisagé ces formes et cette porosité aussi avec les taches, avec des choses beaucoup plus informes, quand vous jouez avec les ombres, ou les corps sans visage, ou le masque, où là on est plus dans la courbe. Et qu'est-ce que vous vouliez... Enfin, je sais pas, j'aurais aimé vous entendre aussi sur ces choix-là.
En fait, c'est vraiment... le dessin, il est pensé vraiment scène par scène. Et il y a des scènes où j'avais besoin, enfin pour la narration, pour appuyer la narration, il fallait beaucoup de détails. Puis parfois, pas du tout. Enfin, et du coup, c'est vraiment composer les images pour qu'elles racontent quelque chose. Sachant que le texte, il est assez court. Et en fait, pendant que je dessinais, j'ai enlevé beaucoup de choses. Parce que le dessin racontait déjà ce que disait la phrase et le racontait mieux. Et du coup, plutôt que d'être dans une sorte de redondance, je préférais en fait avoir des pages muettes ou avoir des phrases plus courtes. Alors voilà, il y a des scènes qui sont très détaillées. Il y a des images, par exemple, où je me suis appuyée... sur des photos ou sur des captures d'écran de films, voilà, des images de films. Et à ce moment-là, le dessin, il fallait qu'il soit un peu plus réaliste, et puis vraiment partir de l'image, quoi. Donc chercher aussi la lumière de ces images, les compositions, etc. Et puis à d'autres moments, il fallait que l'image soit symbolique. Donc par exemple, il y a une double page sur le féminin, le masculin. Et là, c'est des pictogrammes, en fait. Ces images, elles sont vraiment dans le symbole. Et du coup, voilà, j'ai essayé pour chaque scène de réfléchir à ce qui allait mettre le plus en valeur le récit. Ce qui peut être un peu perturbant pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de bande dessinée. Mais...
Est-ce que vous avez pensé en chapitre presque à vous entendre ce moment aussi?
J'ai écrit par paragraphe. Et j'ai commencé à dessiner avant d'avoir le récit complet. Donc c'est venu vraiment comme des morceaux de puzzle, quoi, qu'il fallait ensuite rassembler. Et du coup... En fait, à la fin, en cours et à la fin, j'ai fait vraiment un travail de redécoupage, de réorganisation de mon texte et du coup de mes pages de BD. Ça m'a amené à refaire certaines pages qui fonctionnaient plus une fois qu'elles étaient déplacées ailleurs, ou enfin de les modifier, de reprendre un style de dessin que j'avais mis en place par la suite, enfin voilà, de repenser un peu certaines pages.
Et du coup, le traitement des images que vous avez, c'est aussi, en tout cas c'est l'impression qu'on a quand on lit, une réflexion sur la médiatisation de l'image, puisqu'au final, vous partez d'images télévisées, de photographies, de sculptures aussi. Comment est-ce que vous gérer en fait ces différents médias qui viennent envahir la bande dessinée et qui du coup peut-être influencent votre pratique?
Oui, enfant déjà, moi j'avais l'habitude d'aller dans des musées ou de lire des bandes dessinées, de regarder des films. Et il y a des images qui sont marquantes. Après, en tant qu'autrice de bande dessinée, les images me marquent. Elles sont vraiment essentielles, quoi, dans ma pratique. Ce travail, c'était réfléchir... ça partait d'images télévisées, quoi. C'était vraiment se dire, qu'est-ce qui m'avait marqué, qu'est-ce que je retenais comme image, pourquoi ces images m'avaient marqué, comment est-ce qu'on les assimile. Il y a une scène sur le 11 septembre, il est vraiment question d'images, en fait, de fascination, d'incompréhension, de quelque chose qui est hypnotisant. Et puis c'est quelque chose dont je reparle avec quelques pages sur les attentats du 13 novembre. Et là aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait face à l'image. Voilà, et puis après aussi le rapport au corps féminin, c'est, on se construit en tant que femme avec des images qui sont très fortes, qui sont dans l'histoire de l'art, qui sont dans les magazines, dans les publicités. Donc c'est ça aussi, quoi, être consciente de l'impact que les images ont dans nos vies.
Et pour représenter ces images, vous vous confrontez à nouveau à ces images-là que vous allez représenter, vous vous basez sur ce qui vous a imprégné au moment où vous avez été en contact avec ces images par le passé.
J'ai fait beaucoup de recherches, ouais, d'images. Je suis retournée chercher des images pour partir, pour construire le dessin à partir de ces images. Plutôt que de me fier à mon souvenir.
Est-ce que vous avez eu la même démarche pour les souvenirs familiaux?
Pour les souvenirs familiaux, là, il n'y a pas forcément d'image, mais...
Non, je voulais parler peut-être d'un rapport à la photographie, vous parlez de photos quand même, et puis même pour la représentation de vos grands-parents, où est-ce que vous êtes replongée dans...
Oui, ouais, j'ai recherché... je suis partie généralement d'images. Après, en fait, ça rendait aussi l'écriture et le dessin plus facile par moment, parce que c'était pas, je me disais, bon, c'est évidemment, c'est mon interprétation, mais si je pars de ces images, les images, elles existent, quoi. Donc ça a capturé quelque chose, et du coup voilà, c'était, je restais quand même dans quelque chose de vrai.
Et pour revenir sur les images qui marquent les femmes et qui font qu'on peut avoir du mal à se construire ou à réfléchir sur la féminité, et justement, quelle articulation vous faites avec l'image que vous ont donnée les femmes de votre famille, mm-hmm. Qui ont l'air moins négatives, même très positives?
Oui, ouais. C'est ça qui est curieux, finalement, c'est que même en ayant des modèles... des modèles féminins super, j'ai pas l'impression que ça a été non plus une construction hyper facile dans le féminin.
Parce que vous avez une sacrée grand-mère quand même.
Ouais. Mais après il y a la société qui fait le reste, quoi. C'est je sais pas, c'est assez terrible. Enfin, je pense que ouais. Je crois que ça suffit pas, parce qu'après il y a des pressions sociales tellement fortes. Enfin voilà, pendant l'adolescence c'est tellement compliqué d'être tout court. Alors en plus il faut se questionner. Enfin moi j'ai commencé à lire des textes féministes à la vingtaine, quoi. Donc j'ai l'impression que ça arrivait très tard. Alors bon, c'est pas si tard que ça par rapport à plein de femmes, voilà, mais c'est quand même, je trouve ça fou qu'au lycée, j'ai jamais étudié, je sais pas, même Simone de Beauvoir, quoi, que ce soit pas quelque chose d'obligatoire, quoi.
Et ça a été un vrai soutien, ces lectures-là, parce que vous en parlez, il y a des gens qui n'ont pas lu l'ouvrage, il y a toute une planche avec ces références-là, et qui sont diverses d'ailleurs.
Ouais. Oui, ça a été essentiel. Hein.
Et à différents niveaux, parce qu'il y a plusieurs autrices auxquelles vous faites référence dans l'ouvrage, donc est-ce que c'était à égalité, j'allais dire, ou est-ce que Simone de Beauvoir... a eu autant d'importance que Dépente, est-ce que...
Non, je pense... Dépente, ça a été vraiment un... Enfin, en plus, j'ai découvert Dépente avec son livre Baise-moi, qui est assez violent. Et enfin, j'ai vraiment un souvenir d'une lecture complètement déstabilisante et un peu lecture coup de poing, quoi, qui est assez dérangeante et en même temps qui, je sais pas, qui apporte. Des, je sais pas, des nouveautés, quoi, dans la lecture, une nouveauté de point de vue. Après, par exemple, Annie Ernaux, c'est une autrice que je trouve absolument géniale et qui m'a beaucoup apporté aussi par rapport au récit de l'intime, quoi, enfin, son livre Les années, par exemple, en le lisant, je me disais, oh là là, mais j'aurais aimé pouvoir écrire quelque chose comme ça. Alors, il se trouve que dans Éveil, il y a aussi beaucoup de... Enfin, voilà, ce que je trouve génial dans Les années, c'est sa capacité à parler du monde, en fait, en partant d'elle et en partant de photos, en plus. Donc, bon, il y a beaucoup de liens avec ma BD, mais voilà, ouais. Réfléchir à la politique et l'intime ensemble, je trouve ça trop bien.
Et vous posez aussi la question de la transmission de l'intime. C'est quand même presque une filiation qui s'établit avec ce personnage de la grand-mère qui murmure à l'oreille. Est-ce que la transmission est dans le murmure? Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là qui échappe
Qui murmure à l'oreille. Alors, c'est pas c'est par rapport qui murmure. La question de ces avortements ou...
Des avortements, il y a plusieurs passages.
C'est pas le même personnage,
mais
non, c'est pas grave. Ouais, il y a une transmission. Après, ma grand-mère, elle était peintre en amateur, donc ça a été aussi une influence importante pour moi. C'était quelqu'un qui inventait des histoires sur demande. Je trouvais ça très très impressionnant. Je trouve ça toujours très impressionnant parce que c'est pas facile. Et en fait, c'était pas. J'ai jamais eu de discussion féministe avec ma grand-mère, quoi. Je sais même pas si elle se rendait compte qu'elle était féministe ou pas. Enfin, et ce que je voulais montrer aussi dans la BD, c'était à la fois sa force, son envie de partir en voyage, de faire ça aussi sans son mari, quoi, de pouvoir partir de son côté. Et en même temps, à la fin de sa vie, le fait qu'elle se soit complètement accrochée d'une façon assez vampirisante à mon grand-père. Enfin voilà, c'était montrer deux aspects, quoi, les contradictions. Je pense que ce livre, il voulait montrer les contradictions, les ambivalences des gens.
Mais justement, en parlant de contradictions, est-ce qu'on peut revenir sur le choix du titre? Parce qu'il y a des choses très difficiles à vivre dont vous parlez dans le livre, mais en même temps, le livre s'appelle Éveil, hein, ce qui est quand même un grand message d'espoir, je trouve.
Oui. Mais alors, je ne sais pas si le livre, il raconte des choses si difficiles à vivre. Ça a été difficile à écrire pour moi, mais parce que c'est aussi... aller fouiller dans des histoires familiales, donc ce qui n'était pas... je pense que dans toutes les familles, il y a des choses qui sont un peu... qui sont un peu cachés ou enfin voilà qui sont pas forcément discutés, et du coup de s'en préoccuper à un moment, ça c'est toujours un peu compliqué. Après, finalement, je raconte que des choses très banales de l'expérience féminine, quoi. Il y a pas d'événements particulièrement terribles, quoi. Et j'ai perdu le fil de la question du coup.
C'était par rapport au titre, en fait.
Au titre, oui, Éveil.
Je ne sais pas que c'était aussi comment dire, flagrant, mais vous traitez quand même de quelque chose d'assez douloureux, ou en tout cas d'un chemin douloureux.
Ouais.
Et l'ouvrage s'appelle tout de même Éveil.
Oui. Oui, parce que pour moi, il est optimiste, en fait, ce livre. Et parce que c'est... se poser des questions pas forcément évidentes, essayer de regarder en face des comportements même personnels qui peuvent nous faire honte, mais en même temps les accepter, c'est faire de la place pour quelque chose de mieux, quoi. C'est pouvoir reconstruire quelque chose de plus positif. Donc, ouais, c'est, en fait, c'est un questionnement personnel, quoi. C'est vraiment un parcours personnel. Et du coup, ben, y a plein de remises en question douloureuses qui permettent de déboucher sur, ouais, sur de meilleures choses.
On retrouve beaucoup dans, vos, bah, dans cette œuvre-là et aussi un petit peu dans les entretiens qu'on a pu écouter de vous, cette tension entre la fierté, la honte, la question de la pudeur aussi. Mm-hmm. Ce sont des choses que vous articulez à travers le dessin, à travers l'écriture, que vous problématisez. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous vouliez partager dans ce processus de création. C'est de l'intime difficile à exprimer, donc par quel moyen, par quel détour vous arrivez à les mettre en scène dans votre bande dessinée?
Alors quand j'ai commencé l'écriture, j'utilisais le jeu, et à un moment ça m'a bloquée parce que justement j'avais l'impression que j'étais complètement impudique, et puis du coup j'étais dans une autocensure, quoi. Avant même d'avoir écrit, je me disais non, ça va pas. Et du coup, j'ai réécrit tout mon texte en utilisant le tu. Et ça m'a permis de trouver une distance et puis de me dire aussi, bon, en fait, là, je parle de moi, mais je parle d'un moi qui est passé. Et du coup, ben, c'est mon objet d'étude, c'est moi enfant, moi adolescente, mais voilà, c'est déjà plus moi, quoi. Et du coup, ça m'a permis d'être plus en accord avec ce que je partageais. C'est aussi quelque chose qui me paraît intéressant pour le lecteur, c'est-à-dire que quand on lit cette BD, ben on se sent un peu en miroir, quoi. On entend le tu, et puis alors on peut se dire c'est la narratrice qui s'adresse à elle-même ou qui s'adresse au lecteur directement. Voilà, ça a été une chose. Après, en fait, il y a des pages que j'ai écrites et que j'ai dessinées que j'assumais pas forcément tout de suite, et puis en même temps je me suis dit bon ben si ça passe pas, ben je les enlève et c'est pas grave. Mais une fois que c'était dessiné, c'était déjà ça devenait un peu étranger à moi, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que je révèle finalement de moi, enfin j'ai l'impression que ça se fond dans les expériences de chacun et de chacune, et puis voilà.
Puis ça fait une double mise à distance par la narration, par ce tu, et en même temps par ce redessin perpétuel des corps, des situations familiales. Je suppose que ça participe aussi à ce processus de projection de l'intériorité et en même temps mise à distance.
Oui, ouais. Ouais. Bon, en fait, je pense qu'une fois que le livre est sorti, que ma famille a pu le lire, et puis que j'ai vu aussi l'impact qu'il pouvait avoir sur d'autres gens, et puis voilà, j'ai eu beaucoup de messages de personnes, enfin de lecteurs, de lectrices qui m'ont vachement touchée, et du coup ça m'a un peu enlevé cette inquiétude de partager autant de moi, quoi.
Et vous avez été influencé par la peinture de votre grand-mère peut-être, mais vous parlez aussi d'un choc esthétique dans votre ouvrage devant Sainte-Agathe. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Parce qu'en plus, c'est assez particulier. C'est une page qui est en miroir, enfin, qui est double page, en fait, qui est redoublée
ouais.
Au dos.
Donc, je sais pas, il y a vraiment ce processus où on tourne, où oui. On voit comme si on pouvait voir l'envers. Et en fait, c'est plus que l'envers. C'est vrai que ça a énormément attiré notre attention. En fait, c'est vrai qu'il y avait une page blanche juste avant, si je dis pas de bêtises, on passe. Enfin, le choc esthétique dont vous parlez, c'est intéressant comme terme que vous choisissez là.
Alors, c'est un choc esthétique dont je ne me souviens plus, moi, réellement, parce qu'il arrive quand j'ai 2 ou 3 ans, mais que ma mère m'avait raconté. Et devant un tableau du martyr de Sainte-Agathe, tableau que je n'ai pas réussi à retrouver. Donc, je l'ai composé à partir de différents tableaux. Et voilà, donc c'est une réinterprétation d'après la description qu'en faisait ma mère, qui était donc Sainte Agathe qui se fait couper en fait les seins avec une grosse tenaille, quoi, une grosse cisaille, et avec un chien attendant la gueule ouverte que le sein tombe pour dévorer son sein. Donc image assez traumatisante, mais apparemment qui m'avait fascinée. Enfin, c'était pas une vision cauchemardesque pour moi. Et voilà. Et bon, c'est devenu un peu une histoire. Enfin voilà, c'est une histoire qui faisait beaucoup rigoler ma mère. Et du coup, ça me semblait intéressant, enfin pertinent de le mettre dans la BD aussi en regard des questionnements féministes qui arrivaient par la suite, quoi.
Et est-ce que redessiner sans avoir retrouvé en fait le tableau, sans en avoir même le souvenir, parce que comme vous dites, ça fait partie des mythologies familiales dont vous parlez, c'est-à-dire que on vous a raconté, c'est toute la mise en récit en fait de ces souvenirs. Et donc ma question, c'est est-ce que le fait de dessiner cela, ça a donné à votre souvenir reconstitué une autre réalité, enfin de voir tout le monde suivre une page, est-ce que ça a fait survenir des choses ou pas?
Non, ce qui était assez troublant, c'était de me dessiner du coup à 2-3 ans, quoi. Et c'est plus ça que le tableau qui m'a marquée. Voilà, c'est parce que me dessiner, sachant que c'est pas très ressemblant non plus comme autoportrait, hein, à différentes époques. Enfin voilà, c'est plus dans l'idée des représentations de moi-même. Mais de me remettre dans ce corps dont je n'ai pas la mémoire, quoi, de petit enfant, ça c'était assez troublant, quoi. Et puis j'ai pas l'habitude de dessiner des enfants non plus, donc c'était un travail particulier. Parce que aussi, du coup, de se dire, ah ben, l'enfant, à cet âge-là, je devais mesurer à peu près ça, et puis du coup, le tableau est immense, donc ça veut dire aussi regarder le tableau d'en dessous, quoi, et du coup, c'est une vue aussi qui est d'autant plus spectaculaire, quoi, parce qu'on est au niveau du chien, quasiment. Donc voilà, c'était plus ça que je trouvais intéressant.
Puis c'est vrai que vous jouez sur la taille, hein, sur beaucoup de planches, donc ça résonne aussi dans l'ouvrage, peut-être.
Ouais.
Et puis, en termes de style graphique, ça donne l'impression que le chien était entre le style graphique du tableau pour représenter et le style que vous avez utilisé pour représenter l'enfant, donc il y a une espèce de parallèle qui se fait comme une voie d'entrée dans le tableau, en fait, on voit bien cette... Je trouve ça assez frappant. Non seulement la taille, mais aussi la façon de dessiner qui fait le lien entre les deux.
Ouais, c'est pas forcément. C'est comme les. Enfin, là, on peut faire de l'analyse de l'image avec l'analyse du tableau, composition du tableau, composition de l'image et du tableau dans l'image. Bref. Mais non, c'est pas forcément. C'est pas, tout n'est pas conscient. Il y a des choses qui viennent naturellement.
Bien sûr.
Et vous parlez aussi de vous délester à la fin de l'ouvrage. Est-ce que vous avez eu l'impression que cet ouvrage aussi vous a soulagé d'un poids ?
Oui, ouais. Oui, complètement. C'est un livre en fait qui m'a accompagnée aussi à un moment de grand questionnement personnel. Donc, ouais. Et en fait. Il est venu... j'ai un peu du mal à prévoir des livres, à me dire je vais travailler sur ce sujet où je vais... faire une bande dessinée, c'est tellement de boulot. Je préfère rentrer dans le livre sans m'en rendre compte. Et à un moment, me dire ah, peut-être que là, je vais avoir une BD à la fin. Et du coup, ben, ça laisse aussi la place à l'improvisation, enfin, j'ai essayé d'accueillir aussi ce qui venait, et je pense que voilà, ce livre il est venu à ce moment parce que j'en avais besoin aussi d'un point de vue personnel.
Nous remercions Juliette Mancini et la Maison Fumetti pour l'organisation de cette rencontre et leur accueil chaleureux. Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt !